7h27, ben, c'est une autre réforme majeure du gouvernement de François Legault qui s'amorce avec la disparition des commissions scolaires. Terminé le vote scolaire au Québec dès le printemps prochain. Dans le fond, le mandat des commissaires qui va prendre fin le 29 février. Le ministre de l'Éducation est avec nous, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Première question, et après ça, j'irai avec des exemples plus pointus, plus concrets, là. Avec la création de ces centres administratifs, dans le fond, vous vous donnez plus de pouvoir comme ministre, puis vous en donnez plus à l'école.
On ne donne pas grand pouvoir de plus. On a un article de loi qui précise que le ministre peut écrire une lettre aux parents, peut-être pour les informer d'un changement ou les informer, par exemple, que cette année, il y a deux sorties culturelles gratuites de plus. C'est pas une centralisation. Écoutez, on a regardé ce qu'a fait Gaétan Barrette avec sa réforme en santé, puis on s'est dit, tiens, on va faire le contraire. Lui, il avait éliminé la gouvernance régionale, puis s'était arrangé pour nommer tout le monde sur les CA. Nous, on maintient les administrations régionales, les centres de services scolaires, et je ne nomme personne sur les conseils d'administration, et le gouvernement ne nomme pas non plus les directions générales. Donc, c'est le contraire d'une centralisation. En fait, c'est une des plus grandes opérations de décentralisation.
OK, mais qui va nommer les membres du conseil d'administration?
Ils seront élus par les gens qui sont déjà impliqués sur les conseils d'établissement. Ceux qui sont moins familiers, là, chaque école a un conseil d'établissement composé de parents, d'enseignants, de membres du personnel, parfois quelqu'un de la communauté, la direction d'école. Donc, ces gens-là, ensemble, les différents conseils d'établissement vont élire des représentants sur le conseil d'administration. Il y aura sur le CA encore des parents, des membres de la communauté qui ne sont ni parents ni employés, et des gens qui travaillent avec les élèves tous les jours, là. Un enseignant ou une enseignante, une direction d'école, un spécialiste, des gens qui connaissent les élèves par leur nom et qui vont être appelés à donner l'éclairage du terrain sur le conseil d'administration. Okay, c'est une belle plus-value. Ça.
Les gens de la communauté vont être choisis comment?
Ils vont être sélectionnés par les parents qui sont sur les conseils d'établissement. Donc, quand je dis qu'on remet là, la gouvernance entre les mains de la communauté puis de l'équipe école, ben c'est exactement ça. Ce sont les parents qui sont élus sur les conseils d'établissement qui éliront ou choisiront les membres de la communauté. Puis ça va être sur des profils de compétences. Là. On veut des gens qui ont des compétences en administration, en gouvernance, en éthique, et un membre jeune aussi, puisque c'est une tendance qu'on a au gouvernement de toujours nommer sur nos CA, dans nos sociétés d'État, un peu partout, un membre qui est jeune pour préparer la relève.
OK. Qui sera responsable de l'embauche du directeur général du centre administratif? C'est le conseil d'administration?
C'est le conseil d'administration. Un peu comme en ce moment, le conseil des commissaires et le patron direct du directeur ou de la directrice générale. Là, ce sera le conseil d'administration. Donc, c'est pas le ministre ou le gouvernement là, qui vient diriger les okay. centres de services à distance.
Donnez-moi des exemples des pouvoirs pour un directeur d'école qui lui seront confiés qu'il n'a pas actuellement.
Bien, le directeur d'école, un peu le chef d'orchestre du conseil d'établissement en ce moment, là, qui est l'organisme, je dirais c'est un peu le mini conseil d'administration de l'école, le conseil d'établissement. Et le conseil d'établissement sera l'organisme qui adoptera maintenant le projet éducatif. Et le projet éducatif, là, c'est pas un espèce de document théorique qui reste sur une tablette. C'est quelque chose qui peut décider s'il y a un sport-études dans l'école. C'est ce qui décide aussi les frais qui sont chargés aux parents. Ça se décide sur le conseil d'établissement. C'est là qu'on décide la grille matière. Au primaire, la grille matière, le conseil d'établissement a son mot à dire là-dessus. Et ça sera encore davantage et plus fort. Ça sera sans faire une reddition de compte ou demander là en ce moment au conseil des commissaires qu'est-ce que vous en pensez, puis est-ce que c'est correct. Là, il y a plus d'autonomie aux écoles, plus de pouvoir sur des choses qui ont un impact direct dans la classe. Comme ça, la grille matière et les activités parascolaires, les factures aux parents, ça va se passer directement à l'échelle de l'école.
OK, mais quand certaines activités vont demander du financement, à l'exemple, les fameux projets particuliers là, que des écoles peuvent développer, ils vont s'adresser au centre administratif pour avoir le fric?
Le budget qu'on a fait pour des activités parascolaires, juste préciser une chose, là, c'est un budget qu'on a fait cette année, puis à l'intérieur de 3 ans, 100% des écoles secondaires pour offrir du parascolaire gratuit à tous les élèves.
Non, je ne parle pas du parascolaire, moi je vous parle des programmes particuliers. Mettons qu'une école se donne une vocation X.
Ah oui.
Alors, l'argent va venir d'où?
L'argent vient, mais il y a une partie de l'argent qui peut venir directement du gouvernement provincial, mais ça, ce sont des projets qui sont facturés aux parents, ce dont vous parlez, et ça, ça se décide à la hauteur du conseil d'établissement sur lequel les parents sont majoritaires. C'est important de le mentionner. Puis ce sont eux qui payent la facture, donc ce sont eux qui sont majoritaires sur le conseil d'établissement.
OK. Et si l'école a besoin d'argent de plus par rapport à son budget pour des projets, ils vont s'adresser au centre administratif?
Ils vont s'adresser au centre administratif. Il y a déjà quelque chose dans les commissions scolaires qui va demeurer dans les centres de services aux écoles, qui s'appelle le comité de répartition des ressources, qui est une bonne instance sur laquelle les directions d'école sont majoritaires. Donc ça, c'est une bonne instance. Comme on dit, on ne change pas pour changer. Quand il y a des choses qui fonctionnent, on ne les change pas. Puis il y avait des problèmes, trop de centralisation à la hauteur du conseil des commissaires, on décentralise vers les écoles.
Okay.
Mais il y avait déjà une répartition des ressources qui se faisait par les directions d'école depuis maintenant 2 ans. C'est une bonne chose, on va la maintenir.
OK. Allons dans des cas plus, je dirais, terre à terre, dans le sens où ça touche directement les parents. Chaque année, là, il y a des enfants qui, par exemple, doivent changer d'école parce qu'il faut gérer la nouvelle configuration. Qui va prendre la décision si, par exemple, j'ai un enfant qui fréquente l'école X et qu'on me dit que mon enfant doit aller dans une école ailleurs, puis je suis pas d'accord, je fais quoi avec ça?
Okay, je veux juste préciser rapidement, là, si ça arrive si souvent dernièrement, c'est parce qu'on n'a pas assez investi pour agrandir, construire
oui.
des écoles.
Okay,
maintenant,
mais
ça va arriver encore dans les prochaines années, là, je vous le concède. Ça sera à terme, ça sera le centre de service qui va prendre cette décision-là, parce que ça prend un organisme régional qui a une vision régionale. C'est pas... Chaque école ne deviendra pas un État indépendant. C'est important d'avoir une vision puis une répartition des élèves sur le territoire. Donc, ça sera le centre de service. Si un parent est mécontent, on va me dire, en ce moment, il allait voir son commissaire. Bon, écoutez, je n'ai pas entendu ça souvent, là, moi, là, des gens qui allaient voir leur commissaire puis qui revenaient extrêmement satisfaits. Mais bon, là, il n'y aurait plus de commissaire et ce n'est pas au conseil d'administration qu'on va s'adresser. C'est un organisme qui s'appelle le protecteur de l'élève qu'on va réformer, qui existe en ce moment, mais qui n'est pas parfait. Et ça sera, je vous dirais, la prochaine chose sur la liste,
Monsieur Robert,
de réformer le protecteur de l'élève.
Je vous trouve bien poli en disant qu'il faut le réformer. Ça ne sert pas à grand-chose, le protecteur de l'élève, là, actuellement.
Ouais, je suis un gars poli, effectivement. Mais c'est déjà prévu, c'est annoncé en campagne électorale. Et vous savez comment on est, nous autres, hein, ce qu'on a annoncé en campagne, on le fait dans le premier mandat. Et c'est sûr que c'est la prochaine chose sur ma liste, là, de revoir la structure du protecteur de l'élève pour qu'il soit complètement indépendant. En ce moment, il est dépendant des commissions scolaires, mais je veux pas qu'il soit dépendant des centres de service.
Mais par exemple,
qui porte un regard critique.
Comme parent, j'ai un problème avec la direction de mon école, j'ai un problème avec le prof de mon école. Je parle à qui? Au protecteur?
La première chose à faire, ce serait d'aller voir la direction d'école, mais ensuite, si ça ne se règle pas, ça sera d'aller voir le protecteur de l'élève, réformé, qui sera réformé, bien sûr, dans les prochaines années.
OK. Pour ce qui est des élèves qui ont besoin d'aide, de orthopédagogues, autres spécialistes comme ça, quand il y a des plans qui sont faits pour des enfants, un parcours, là, et que les ressources n'arrivent pas, c'est le centre administratif qui va gérer ça?
C'est la direction d'école. Et là, c'est là que c'est important. Parce que en ce moment, on a des décisions qui sont prises là, tout en haut de la pyramide, à la commission scolaire, au conseil des commissaires, et qui décident, supposons, combien on a de classes pour enfants qui sont autistes dans une commission scolaire. Après ça, là, les directions d'école en ce moment, c'est des cadres avec une possibilité de se faire entendre qui est très, très mince. Hein. C'est un cadre qui est dépendant et ils n'ont pas trop la possibilité de s'affirmer puis de dire « voici les services dont j'ai besoin dans mon école ». Ils sont plutôt là pour répartir les élèves dans les services décidés par quelqu'un qui ne met jamais les pieds dans l'école. Alors là, on inverse ça. On va partir des écoles. On va partir de ce que j'appelle mon quatuor, là, la direction, le parent, évidemment, l'enseignant et le professionnel, on va dire le psychologue. On va dire, le petit Tommy, là, il a besoin d'une classe pour enfants autistes ou il a besoin d'un suivi en psychologie. Et là, on se tourne vers le centre de service et là, sa job au centre de service, c'est de rendre des services. C'est plus l'école qui est la succursale de la commission scolaire, c'est le centre de service qui est là pour répondre aux besoins qui sont identifiés dans les écoles. Et ça, je vous dirais, c'est le cœur du changement, c'est le cœur de la décentralisation. Puis je suis convaincu qu'à terme, les services aux élèves vont être améliorés à cause de ça.
Mais ce sont les mêmes gestionnaires qui vont être là. Je comprends qu'il y a un conseil d'administration.
Il y a un conseil d'administration, comme on se l'a dit tout à l'heure, avec des parents, des membres de la communauté, puis du membre du personnel. D'ailleurs, ça va faire du bien d'avoir ces gens-là là où les décisions se prennent ultimement, là, d'avoir des gens qui tous les jours côtoient des élèves et des parents. Mais après ça, ben, les cadres scolaires, là, supposons les professionnels qui voient à la répartition des profs, les professionnels qui font les trajets d'autobus, sont des gens compétents, c'est pas des gens dont il faut se débarrasser, c'est pas des gens qu'on veut mettre à la porte. On va continuer de travailler avec ces gens-là, mais la gouvernance, puis là où les décisions se prennent, ça va se prendre davantage du bas vers le haut que du haut vers le bas, mais il s'agit pas là de dire que les fonctionnaires puis les cadres qui travaillent dans les commissions scolaires en ce moment sont des problèmes, qu'on veut les mettre à la porte. C'est pas ça du tout l'opération qu'on fait.
OK. Deux questions. D'abord, savez-vous à ce moment-ci combien il manque de profs dans les écoles?
Il faut que je fasse une mise à jour. Là, j'attendais la fin du mois de septembre pour faire un nouveau sondage au début du mois d'octobre pour savoir quel est l'état de la situation. À la date du 1er septembre, il nous manquait autour de 360 enseignants. Presque 300 à Montréal, 60 dans le reste du Québec. Je sais que de jour en jour, c'est une situation qui s'est réglée, mais je suis quand même curieux de savoir en ce moment, on en est où? Est-ce qu'on a réussi à trouver là des enseignants qualifiés ou des gens qui ont une tolérance d'enseignement, qui se sont engagés dans une séquence de formation, okay, dans une faculté d'éducation? On va savoir ça dans les prochains jours, peut-être d'ici deux semaines, je dirais, une mise à jour de ça.
OK. Est-ce que c'est vrai que la majorité des enfants inscrits à une maternelle 4 ans sont des enfants qui viennent déjà du réseau des CPE ou des garderies, là, pas des enfants qui étaient à la maison?
Mais encore une fois, je vais vous dire, je vais avoir cette réponse-là dans peut-être une semaine. Là, je sais qu'il est sorti un chiffre là, de la Fédération des commissions scolaires qui ont fait leur sondage. Je ne sais pas si leurs chiffres sont valides ou pas. Ce que ça dit, leur sondage à eux, c'est qu'il y aurait quelque chose comme 60-70% des enfants en maternelle 4 ans qui étaient l'an passé soit en CPE, soit en milieu familial, soit en garderie privée. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Ce que ça voudrait dire, c'est qu'on a réussi cette année à amener en maternelle 4 ans presque 2000 enfants. 2000 enfants qui n'avaient aucun service l'an dernier. C'est exceptionnel. Puis autour de 5000 enfants qui avaient une place quelque part dans le réseau des garderies, qui ont choisi la maternelle 4 ans et qui ont libéré donc 5000 places dans le réseau des garderies pour ceux qui sont sur une liste d'attente. Alors pour moi, c'est que des bonnes nouvelles.
OK, mais vous n'avez pas de chiffres, mais on a pu voir un chiffre qui vient, semble-t-il, des commissions scolaires et tout ça. Mais vous n'avez pas de données.
Moi, j'ai posé la question. Je vais avoir la réponse peut-être dans une semaine, peut-être dans deux semaines, quelque chose comme ça. En ce moment, c'est des données parcellaires. Je ne sais pas, en fait, là, si la donnée de la Fédération des commissions scolaires sont valides ou pas. On va avoir les vraies données. Mais comme je dis, quand on rejoint des jeunes qui n'avaient aucun service, ben, c'est formidable. On est allé les chercher. Là, ils étaient complètement à l'extérieur du réseau. Je suis sûr que c'est arrivé pour des centaines, sinon des milliers d'élèves. Et ce n'est pas un problème si des enfants qui sont en maternelle 4 ans étaient l'an passé quelque part dans une garderie. Notre but, c'est d'offrir le libre choix aux parents et de désengorger le réseau des garderies en libérant des places pour ceux
qui sont en attente.
Alors, d'opposer les maternelles aux garderies, là, c'est n'importe quoi.
Bien, ça, c'est un autre débat. On n'aura pas le temps de le faire ce matin, là, parce qu'il y a bien des gens qui pensent la maternelle 4 ans, c'est pas nécessaire. Là, puis je ne recommencerai pas le débat avec vous là-dessus ce matin. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien d'enfants éligibles au maternelle 4 ans se sont pas inscrits cette année.
Combien d'enfants qui étaient éligibles au
maternelle 4 ans? Oui, des enfants de 4 ans qui ne sont pas à la maternelle 4 ans, puis qui ne sont pas dans les CPE. As-tu moyen de savoir ça?
Bien, le dernier chiffre qu'on avait, c'est celui de l'an passé, là, parce qu'en ce moment, on ne peut pas colliger les informations en temps réel. Il y avait quelque chose comme 18 000 enfants de 4 ans qui n'étaient nulle part dans le système. Ni dans aucune garderie familiale, CPE, ni à la maternelle 4 ans. C'était autour de 18 000 enfants de 4 ans.
Si vous en avez 2 000, il en reste quoi, 16 000?
Quelque chose comme ça. Mais écoutez, on a seulement ouvert 5 000 places là, cette année. On est au début de l'implantation de la maternelle 4 ans. Alors, on ne va pas rentrer 18 000 enfants dans 5 000 places. Là.
Non, mais vous aviez déjà des enfants dans les garderies qui prennent ces places-là.
Ben, c'est pas un problème quand un enfant fréquentait une garderie. On offre le libre choix aux parents,
ouais,
c'est
ouais.
Ce qu'on s'est dit. Hein, la maternelle 4 ans sera accessible de manière universelle, mais non obligatoire. Alors, si le parent fait le choix de la maternelle 4 ans parce qu'il pense que c'est le meilleur service pour lui, qui suis-je pour le juger? Je refuse de juger ce parent-là. On lui offre ce choix-là, puis il s'en saisit, puis il libère une place quelque part dans une garderie pour quelqu'un qui est sur une liste d'attente. Alors, pour moi, c'est qu'une bonne nouvelle.
Merci, M. Roberge. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Jean-François Roberge est le ministre de l'Éducation, 7h41.